I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Pourquoi certains d'entre nous faisons des trous à nos chaussures avec le gros orteil? C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti! Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans l'Amsterdam Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et la question m'a été posée par Dada Vidov dans l'Amsterdam Running Club. Donc j'ai répondu ce vendredi avec une réponse directement en vidéo dans l'Amsterdam Running Club. Et là, en fait, je vous propose une nouvelle version. J'ai enregistré, mais en fait, je dis les mêmes informations. Voilà. C'est juste que, comme on est en audio, il y a des choses que je peux pas montrer. Et je sais qu'en vidéo, je montrais des choses. Donc là, j'ai fait une réponse qui reprend les mêmes idées. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses, parce que c'est un problème que j'ai bien connu, en fait. C'est un problème que je connais très bien, ou en tout cas que je connaissais très bien. En fait, je perçais systématiquement mes paires de chaussures au bout de 150 à 200 km au début, quand j'ai repris la course à pied. Et ça me gonflait très clairement, quoi. J'étais en colère, ça me gonflait, j'en voulais aux marques de chaussures. Par exemple, j'avais des Saucony. Et les Saucony, j'en ai percé une paire après 400 km et puis une paire après de 200 et tout, 140, et ça m'énervait. Donc j'ai écrit à Saucony, sur Instagram, j'ai envoyé des photos des chaussures, j'ai fait les magasins de running aussi, je leur ai dit mais vous avez pas des chaussures qui soient plus résistantes, est-ce que Saucony n'aurait pas des modèles avec un bout renforcé, vous savez au bout du mèche là il y a des renforcements sur les pieds et tout, est-ce qu'ils vous auraient pas un truc du mèche plus épais, quelque chose qui renforce, etc., qui éviterait que mes chaussures se trouent constamment, parce que j'en ai marre d'acheter des chaussures à 100 € et que ou 140 € et que je me retrouve avec un trou dedans, c'est scandaleux. Bon, Saucony m'a dit, n'a pas fait vraiment de geste d'ailleurs sur l'histoire, parce que je pense que ils avaient une autre vision des choses, ils ont peut-être pas osé me le dire, mais moi-même, qui maintenant, ce qui je me regarde, j'oserais me le dire. Maintenant, je ne perce plus mes chaussures ainsi, ou alors bien plus tardivement. J'ai regardé mes paires de Altra tout à l'heure. Alors, après 1200 km, pas de trou, 1600 km, comment savoir un trou sur une paire? J'ai percé une paire, oui, avec le mèche, hein, qui commence à percer, on voit un petit peu à travers. Mais je le dis, hein, on est entre 1400, 1500, 1600 km sur les différentes paires que j'ai. Toutes les paires qui sont comme celle que je venais de citer de Saucony, hein, 300, 400, 500, etc. J'en ai aucune de percée. Mais vraiment aucune de percée. Alors, est-ce que c'est parce que mes Altra sont plus solides? C'est la grande question finalement. Est-ce que c'est parce que Altra est plus solide que Saucony? Ben non. Et je dois le dire, en fait, Saucony était vraiment très probablement pour rien dans cette histoire. Même si on peut dire que le mesh pourrait être plus épais, que beaucoup de gens trouvent que les mèches sont un peu fins. Sur certains modèles, c'est vrai que pour alléger les chaussures, il y a des mèches qui sont un peu plus fins, et c'est valable chez toutes les marques, hein, chez Saucony, comme chez Asics, comme chez Nike, comme chez Altra, sur certains modèles Altra, où j'ai un mesh qui est plus fin que sur d'autres. J'ai même un modèle racer, vous savez, qui est un peu transparent, ou il est même très transparent, donc il est plus fin. Voilà, on le sait, selon les marques, il y a des mèches plus ou moins épais, plus ou moins costauds, etc. Ça, c'est une réalité. Mais en fait, ce qui a vraiment changé, c'est moi. C'est vraiment moi. Par là, je veux dire que c'est pas mes pieds, ils sont toujours aussi grands. Hein. Moi, je chausse du 47. C'est pas mes gros orteils qui sont toujours aussi gros. C'est pas mes ongles qui sont toujours aussi coupants si je les coupe mal. Donc, ça veut dire que déjà, là, il y a un premier point. Et je le sais, parce que c'est de dire attention, vérifier qu'ils soient pas taillés un peu en pointe, qu'ils soient pas un petit peu abîmés, qu'ils coupent pas, etc. Parce que j'ai fait quelques paires chaussettes quand même aussi par ce biais-là. Mais en fait, mes pieds eux-mêmes n'ont pas changé. Enfin, à la limite, ils ont pris un peu de force depuis que je cours maintenant, et surtout que je cours pieds nus et en sandales, etc. régulièrement. Mais par rapport à l'époque, on peut dire que j'ai pas grandi les pieds. Enfin, c'est pas à 40 ans qu'on change de pointure, littéralement. Entre mes 40 ans et mes 46 ans maintenant, je pense pas avoir changé vraiment de pointure de pied, même si c'est vrai quand même que j'apprécie d'avoir une demi-pointure de plus sur la plupart de mes chaussures, mais qui vient surtout aussi de la largeur et puis de mes pieds qui ont pris l'habitude d'être un peu plus larges. Non, en fait, ce qui a changé chez moi, c'est surtout ma manière de courir. Et ma conviction, c'est que ces histoires de trous dans les chaussures, c'est purement une question mécanique et de technique de course, même si quand j'ai fait des recherches, même quand j'avais moi-même fait des recherches, bien sûr, le constat, c'est qu'on s'en dit, c'est forcément la faute des chaussures, c'est forcément la faute du mesh, des fabricants, etc., qui font, c'est un peu le complot du, il faut changer les chaussures rapidement, sinon ça va pas. Donc, ils font des chaussures qui s'usent plus vite, qui ont des mèches plus fins, qui sont moins résistantes, qui ont des semelles moins résistantes, etc., parce que comme ça, on les achète plus régulièrement des chaussures et tout chez eux. Mais, c'est pas valable en fait cette histoire là parce que si les gens sont pas contents après leurs chaussures, au bout d'un moment ils vont arrêter d'acheter les marques de chaussures qui feraient ça. Donc c'est pas logique, c'est pas l'intérêt en fait des fabricants. Leur intérêt plutôt, c'est plutôt que on ait des chaussures dont on soit vraiment content, vraiment des chaussures dont on soit content. Ça, ma conviction est vraiment là-dedans, et ma conviction qui va avec, c'est que c'est une question purement mécanique et de technique de course. Je vous donnerai quand même à la fin deux petits conseils complémentaires qui dérivent un peu de ça. Mais pour moi, c'est la plus grosse cause de ces trous qui arrivent par l'intérieur de la chaussure finalement. Quand on regarde un petit peu et c'est au-dessus du gros orteil, et ben, c'est pour moi, c'est une question purement mécanique. Alors, pour le faire, pour vous en convaincre un petit peu, vous vous mettez debout là comme ça, vous mettez les pieds à plat. Si vous êtes pieds nus, vous allez encore mieux le sentir. Je le fais en même temps que vous. De toute façon, c'est simple. Et vous allez essayer de vous balancer vers l'avant et vers l'arrière. Et vous allez regarder un petit peu ce qui se passe dans vos pieds, ce qui se passe sur vos pieds, vos orteils, etc., vos chevilles. Vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Vous vous penchez vers l'avant. Que font vos orteils? En fait, il faut se rappeler quand même que les orteils, il y a des muscles. Hein. Le pied, il y a énormément de muscles. Et il y a des muscles. Et qu'est-ce qu'ils font ces muscles? Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des fléchisseurs et des extenseurs. Toujours pareil. Si vous regardez bien vos orteils, si vous arrivez à les bouger dans tout comme il faut, vous arrivez à les ramener vers le sol pour griffer le sol. Et puis vous arrivez à les ramener vers le ciel. Bon, si vous penchez vers l'avant, qu'est-ce que font vos orteils en fait? Pour prendre l'équilibre, ils vont prendre de l'appui, ils vont plutôt avoir tendance comme ça à s'agripper, vous allez sentir qu'ils vont se planter dans le sol, vraiment, tac, et même vous pouvez fléchir un petit peu, c'est-à-dire les replier, vous allez sentir que ça s'agrippe. Maintenant, penchez-vous vers l'arrière. Et là, que font-ils? Mais très naturellement. Alors, je vais pas trop le faire parce que sinon vous allez plus m'entendre parler parce que je vais trop m'éloigner du micro. Mais si je m'éloigne, si je me penche vers l'arrière, il y a un moment donné, le pied ne va pas bouger, et puis il y a un moment donné où pour retrouver l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez commencer à lever le devant des pieds, vous allez lever les orteils en fait. Pourquoi? En fait, c'est de la mécanique, c'est juste de la mécanique. C'est-à-dire que nos orteils, en fait, ils jouent beaucoup de rôle dans l'équilibre, hein. Il y a l'équilibre du pied, il y a la propulsion, il y a plein de choses, ils ont beaucoup de rôle, mais c'est vrai qu'en fait... ils ont aussi ce rôle d'équilibrage, voilà, et qu'il y a une question qui est vraiment très mécanique, hein, vraiment très mécanique. Donc refaites le test, vous penchez vers l'avant, voilà, vous allez vous rendre compte que vos orteils, normalement, ils sont plutôt pointés dans le sol, etc. Et puis si maintenant vous penchez vers l'arrière, vous allez vous rendre compte que assez rapidement, en fait, très rapidement, mais c'est valable aussi, par exemple, si vous faites un squat. Quand vous asseyez, par exemple, si vous asseyez, regardez le mouvement de vos orteils quand vous asseyez, ou quand vous faites un squat. Il y a un moment donné, ou selon la position que vous avez, si vous êtes très en arrière, etc., vous allez vous rendre compte que vos orteils, pof, ils remontent vers le ciel. Bon, quand on est sur l'arrière, sur les talons, les orteils, donc, pointent naturellement vers le ciel, et le gros, qui est très fort, qui est très puissant, pointe vers le ciel. Et c'est un rappel qui est important, c'est que le gros orteil est vraiment extrêmement puissant. On s'en rend pas compte, hein, peut-être de la puissance de cette l'orteil, mais il est vraiment très puissant, parce que il a de nombreux rôles dans l'équilibrage et la propulsion, je viens de le dire. Et il faut savoir aussi que il a son propre muscle extenseur. Hein, voilà, il y a un muscle qui est propre à lui, qui est l'extenseur, vraiment. Donc, c'est ce qui permet de remonter, hein, pof, et qui descend en fait depuis la fibula. Bon, avant ce qu'on appelait le péroné, hein, et puis qui, vous savez, donc ça veut dire que c'est les deux os qui sont au niveau du tibia. Vous avez le tibia et puis vous avez la fibula. Donc en fait, il est accroché là. Donc, ce qui veut dire qu'il va descendre dans le bas de la jambe. La cheville, le pied, le dessous du pied et tout, et qui va jusqu'au gros orteil. Donc, ce qui est logique, en fait, c'est-à-dire que selon la position que vous avez des tibias, des jambes, etc., c'est logique à un moment donné que ça remonte jusqu'à l'orteil, tout simplement parce que c'est relié, en fait, hein, le muscle qui fait travailler les orteils, enfin, les muscles des orteils, sont reliés au reste de la jambe. Voilà, tout simplement. Donc, là, ce qui se passe dans la jambe a un impact sur ce qui se passe au niveau des orteils. Et refaites ce test, etc. Vous allez vous rendre compte. Penchez-vous vers l'avant, constatez ce que font vos orteils. Penchez-vous vers l'arrière, regardez ce que font vos orteils. Asseyez-vous, regardez ce que font vos orteils. Essayez de voir un peu, et puis alors vous pouvez même faire un test, etc. C'est-à-dire, vous pouvez essayer de vous baisser, de marcher un petit peu en étant comme en position assise, etc. Vous allez voir un peu des positions, vous savez, la marche des canards, et trucs comme ça. Regardez vos orteils, et vous allez tout de suite voir que forcément, il y a un moment donné, il y a la tension qui va s'exercer, selon la jambe, comment elle va se placer. Et donc, ça fait remonter de gros orteils. Bon. Ceci étant dit, maintenant, pourquoi je pense que ça peut être une cause, en fait? Tout simplement parce que dans mon cas, moi j'ai fait une analyse de foulée sur tapis quand j'ai fait ma périostite. Et quand j'ai fait ma périostite, c'était la préparation de mon premier marathon. Jusqu'avant, en fait, je trouvais mes chaussures, j'accusais les fabricants de chaussures, etc. Mais je m'étais pas rendu compte de la manière dont je courais, en fait. Et le truc, c'est que je talonnais beaucoup et j'avais une technique qui reproduisait celle du marcheur. Parce que quand vous marchez, et là, c'est un autre test que vous pouvez faire, marchez, vous pouvez marcher pieds nus, mais sinon vous pouvez vous en rendre compte dans vos chaussures, vous allez vous rendre compte en regardant vos chaussures à travers. Quand vous marchez, regardez la position que vous avez en marchant et regardez ce que font vos orteils quand vous marchez. Et normalement, vos orteils, quand vous marchez, vous posez plutôt le talon en premier quand on marche, hein, c'est la réalité, on pose le talon en premier, et vous allez regarder, vos orteils, ils ont plutôt une tendance à remonter, ils vont remonter vers le ciel, tac, et même peut-être un petit peu, carrément plus monter, peut-être ça va peut-être s'amplifier. Et moi, en fait, j'avais cette technique du marcheur, alors même d'ailleurs, qui valait un petit peu, Thomas Laure Blanchet s'est un peu moqué de moi en me disant que je courais un peu comme un papy, c'est-à-dire que je courais un peu assis, en fait, c'est-à-dire très droit du haut du corps, un peu assis, hein, et tout, et donc avec un gros talonnage. Il m'avait dit, tant qu'on court pas beaucoup, ça pose pas beaucoup de problèmes sur les tensions, etc. Mais le moment où je me suis mis à courir beaucoup plus, ça a augmenté les tensions dans les jambes, ça a augmenté les tensions sur les muscles, périoste, muscle fléchisseur, et le muscle fléchisseur, il descend aussi sous le pied, hein, ça fait partie vraiment des choses qui sont importantes. Et il y a un moment donné, ça a tiré, et c'est pour ça que j'ai fini par aller le voir, parce que j'étais tout inflammé. Et à ce moment-là, donc, on a regardé ma foulée, on a regardé comment c'était fait. Il n'a pas regardé mes orteils, en fait, hein. Il a vraiment pas regardé mes orteils. Mais ce qui était intéressant, en fait, c'était de regarder comment je courais. Donc, et quand on court un peu dans cette position, c'est-à-dire assez droit, un peu assis parfois, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on arrive sur le talon, et en fait, il y a un mouvement de la cheville qui se fait automatiquement pour remonter, en fait, pour bien avoir une vraie appui sur le talon. Et donc, ça remonte le pied, l'avant du pied, en fait. Donc, ça remonte les orteils. Vous avez compris un peu la logique. Donc, c'est-à-dire que quand on a cette technique-là, quand on pose le pied, il va pas se poser à plat, il va se poser sur le talon. Et pour être sûr qu'on va bien poser sur le talon, mécaniquement, en fait, hein, on s'en rend pas compte, hein, notre corps équilibre les choses, en fait, en levant le devant des pieds, les orteils, tac. Comme ça, il est sûr qu'on a un atterrissage. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un avion. Imaginez un avion. Vous avez vu atterrir un avion, les images d'un avion quand il atterrit. Au début, il descend. Et puis, pour être sûr de bien poser d'abord l'arrière de l'avion, tac, et bien, il relève un petit peu le nez, hop, il pose l'arrière de l'avion et ensuite, il pose le devant. Et bien, c'est comme ça qu'on court, en fait, quand on a ce talonnage-là. Alors ça, c'est un problème, en fait. C'est que, d'une part, déjà, c'est que on a une tendance à arriver, quand on fait ça, avec une jambe qui est très tendue sur l'avant, vraiment tendue, et souvent, d'ailleurs, elle est de loin devant nous, et on peut arriver avec, en plus, un genou qui est un peu tendu aussi. Donc, c'est là où on a l'onde de choc, et c'est pour ça qu'on dit que talonner est mauvais, parce que quand on a cette sorte de talonnage-là, effectivement, on arrive, on tape plein fer, j'ai envie de dire, plein pot, sur le sol avec le pied, ça résonne dans toute la jambe, parce qu'on a la jambe tendue, et donc, finalement, on n'a pas l'amorti qui est des tendons, des muscles, etc., qui est prévu, parce qu'on ne doit pas arriver comme ça quand on court, normalement, on a des amortisseurs, et l'amortisseur, s'il est tendu comme ça à fond, il a du mal, en fait, hein, à se compresser, donc ça se compresse pas, donc il y a une espèce de résonance qui va se faire, et puis, en plus, vous pouvez bien comprendre que ça fait une sorte de freinage aussi, parce que on tape comme ça directement, donc finalement les forces, hein, j'ai envie de dire, de mécanique, etc., s'opposent entre le sol et puis notre pied, c'est ça vient taper, quoi, ça vient pas épouser, ça vient taper, hein, vraiment l'histoire des trucs comme ça. Je dois le dire, depuis que j'ai modifié ma technique de course, la durée de vie du mèche de mes chaussures, je le répète, est beaucoup plus longue. Sur mes Altra, les trous n'arrivent que vraiment en fin de vie. Et en fait, vous savez à quel moment elles arrivent? C'est un moment où je termine de les mettre en marchant. Par exemple, si vous me croisez dans la rue, si vous me voyez marcher, vous me verrez marcher avec mes vieilles taurines qui étaient justement les taurines qui, avec lesquelles je me suis blessé pour préparer le marathon de Paris. Donc il y a maintenant quand même, vous voyez, un paquet de temps, hein, il y a plus de 4 ans, donc ça fait 5 ans que j'ai ces chaussures-là. Donc j'avais couru au début avec, et maintenant je les ai déterminées en marchant. Alors là, elles commencent vraiment à être mortes, hein, parce qu'elles ont elles ont vraiment du kilométrage. Et donc, elles commencent un petit peu à trouer sur le dessus. J'avais troué aussi une paire d'escalantes qui sont trouées de la même raison. En fait, j'ai deux paires d'escalantes qui sont trouées. Une paire d'escalantes, d'ailleurs, celle du marathon de Paris, sont trouées comme ça parce que je les ai finies en marchant. Je les trouvais tellement confortables pour marcher. Et l'autre paire d'escalantes que j'ai qui a suivi aussi, pareil, exactement la même raison. Bon, en plus, il y a un petit rat un jour qui est venu manger un bout de la chaussure alors qu'elles étaient au-dessus de la cave. Bon, ça, c'est un autre détail. Le mèche devait être très bon parce qu'il a mangé ça plus l'élasticité. Bon, bref, donc ça a augmenté encore un petit peu le trou. Donc, c'est les seuls qui sont troués. Les autres ne sont pas troués. Vraiment, elles n'ont aucun trou. Alors que pourtant, elles ont des centaines et des centaines de kilomètres. Et certaines, je dis, hein, 1400, 1500, 1600 kilomètres. Hein, si vous regardez un petit peu mes statistiques sur Strava, sur le matériel, on voit un petit peu les différentes paires de chaussures que j'utilise. J'en ai beaucoup reçu quelques-unes récemment. Donc, elles ont moins de kilométrage pour certaines. Mais celles qui ont un kilométrage ancien n'ont pas de trous, vraiment pas de trous. Alors que la semelle dessous commence vraiment à s'user, hein, sont un peu lisses par moment. J'ai envie de dire que chez moi, la semelle s'use plus vite que le mèche. Alors que à l'époque, quand j'ai connu ce problème-là, le mèche s'usait beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui me rendait fou quand j'ai écrit à Soconi, c'est de dire bah la chaussure elle est parfaitement nickel en dessous, mais alors par contre le mèche est pourri. C'est ce qui m'énervait. Bon, bah depuis maintenant, je n'ai plus ce problème-là. Pour l'anecdote, mon gros orteil fait aussi des trous dans mes espadrilles que je n'utilise elle qu'en marchant. Donc j'ai des espadrilles dont je suis très content, mais qui ont maintenant des trous. Et des trous au-dessus des deux orteils, en fait. Donc ça valide, pour moi en tout cas, ce que je dis. C'est-à-dire que dans la technique de marche, quand on marche, c'est vrai qu'on remonte, on arrive avec le talon, mais là on n'a pas les chocs, on n'a pas la vitesse, c'est différent. Hein. Le marcheur, on a cette technique-là, mais c'est vrai que pour s'assurer qu'on pose bien le pied par le talon, en fait, et qu'après ça va dérouler dans le sens, en fait, les orteils remontent devant. Voilà, c'est la logique. Donc quand vous avez compris ça, si vous regardez un petit peu comment vous faites quand vous marchez, ben regardez un petit peu, vous allez vous rendre compte que peut-être effectivement les orteils vont venir frotter sur l'intérieur de la chaussure, et il en est de même en courant. Si vous courez en talonnant assez fortement, et ben il se pourrait que vous vous rendiez compte aussi, en regardant, vous pouvez vous en rendre compte aussi, que vos orteils puissent remonter tout simplement dans la chaussure, à l'intérieur, par la chaussure. Et forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que le mèche il est trop faible ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que, et ben ça tire, hein, ça finit par tirer un petit peu par l'intérieur. Et donc, à force de tirer, de tirer, de tirer, ben, il y a un moment donné où ça va lâcher. Alors, soit ça va lâcher sur les coutures, soit ça va lâcher pile au-dessus du gros orteil, là où ça appuie en permanence. Une bonne manière, en fait, j'ai envie de dire, pour vérifier que ça peut être ça, c'est de vous filmer de côté, en fait, en regardant un petit peu comment vous posez le pied. Si la pointe de pied pointe vraiment vers le haut, ça s'accompagne souvent donc d'une jambe qui part loin devant, qui arrive genou tendu. Si vous regardez ça, si vous pouvez faire un constat, donc c'est simple, hein, vous pouvez poser un téléphone, vous pouvez le caler contre un trottoir quand il y a personne, bien sûr, pour éviter de vous faire piquer. Vous courez comme ça, de profil, hein, j'ai envie de dire, vous filmez, vous regardez un petit peu, vous essayez de zoomer un petit peu dessus pour regarder. Peut-être même que vous verrez un peu la position du pied, mais regardez, vous verrez surtout d'ailleurs si vous êtes plutôt au courir vers l'arrière, si vous êtes plutôt en position un petit peu assise, si vous arrivez beaucoup en talonnant, si vous avez une position vers le devant. Bon. L'astuce pour améliorer la foulée, quand vous vous rendez compte de ça, j'ai envie de dire, c'est d'avoir une foulée qui soit plus courte avec une cadence plus élevée. Parce que quand vous allez faire ça, ce qui est mécaniquement, pour poser souvent, plus souvent le pied, vous êtes obligé d'avoir en fait une foulée qui soit plus courte. Et donc, vous allez devoir venir poser l'axe dans vraiment votre pied va se poser plutôt dans l'axe du corps. Alors, il va bien se poser devant, mais plus proche de l'axe du corps. Donc, en fait, mécaniquement, vous allez moins talonner et aller vers une foulée qui est plus médio-pied, pose du pied au milieu, mais qui peut être aussi une légère talonnade, hein, parce que l'autre jour, c'était une réflexion qu'on a fait quand je courais avec Hermano en début de semaine. Il m'a dit, tiens, toi aussi, t'as une talonnade. J'ai dit, oui, il y a des moments, en fait, sur la fatigue, il y a des moments où, avec la fatigue, je peux me retrouver à talonner légèrement, mais j'ai quand même une cadence de pas qui est... Alors, avec la fatigue, ma cadence de pas va baisser en course, ça, c'est très net. Ça, je le vois hein, sur une séance. Je crois qu'il m'a fait la remarque, on a couru 20 km en pleine chaleur, donc je crois que c'était un peu lié à ça. Et moi, j'ai pas d'entraînement de l'ami Hermano hein, sur ces qui, lui, traverse la France. Mais ça, c'était le constat comme ça. Mais généralement, en fait, c'est vrai que j'ai plutôt maintenant médio pied, pose de pied vraiment plus vers l'avant au milieu du pied. Et en fait, en étant aussi en étant penché plus vers l'avant et moins vers l'arrière. Mais ça, c'est vraiment l'entraînement qui a fait ça. Quand j'avais changé de foulée après la après ma blessure pour la préparation du marathon, ben j'avais travaillé là-dessus avec des exercices qui étaient de courir avec des petites foulées, avec même c'est un audio avec la cadence tac 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 pour poser le pied à chaque fois, etc. Donc beaucoup de ça, et régulièrement je le refais, je compte, je vérifie si je suis loin ou pas. Alors je suis pas dans les 180, des fois je suis un peu plus, des fois je suis un peu moins, je suis dans ces zones-là et tout. C'est ça fait vraiment partie en fait d'un apprentissage que j'ai eu, hein, vous l'aurez pas en quelques secondes, mais en tout cas, ça peut être bénéfique, et ça peut, en fait, ce que je voulais dire par là, pourquoi je réponds comme ça à cette question, c'est que ce trou, en fait, mais c'est comme quand on regarde les chaussures, en fait, si on vous prenait des chaussures d'un coureur, en regardant les chaussures, on a quand même une bonne vision de comment la personne court, en fait. Il y a des chaussures qui sont très abîmées sur l'extérieur, il y a des chaussures qui sont très abîmées sur l'arrière, il y a des chaussures qui sont abîmées sur l'arrière extérieur, sur différentes zones du pied. Et en fait, bah, ça s'explique par comment le pied est posé, la mécanique de course, etc. Et c'est vrai que moi, je constate, en fait, que ce trou dans l'orteil, là, comme ça, qui pointe, pour moi, ça correspond à une technique de coureur qui est plutôt marcheur, etc. D'ailleurs, dans ma formation, mon programme sur comment débuter la course à pied, j'ai fait une vidéo pour expliquer ça, justement, pour dire, bah voilà, attention, quand on fait de l'alternance marche-course, quand on vient de la marche, on a une tendance, on marche, c'est logique de marcher en ayant plutôt une attaque talon, parce que c'est comme ça qu'on marche. Quand on court, il faut plutôt aller vers une technique de coureur et pas rester sur une technique de marcheur. Bon, voilà encore une raison de plus pour le faire, vous allez économiser des chaussures. C'est vraiment pas si simple que ça à travailler, hein. Il faut un peu de temps, c'est pas en quelques jours que le trou va se... Alors le trou se résorbera pas en plus, mais c'est pas en quelques jours que ça va se régler, mais ça veut dire qu'il faut faire de temps en temps, voilà un petit peu. Et c'est au final quand même, on se rend compte que c'est quand même... Moi, je trouve plus économe pour le corps, l'énergie aussi dont tu as besoin pour déplacer la chaussure, Dada, par rapport à ça. Enfin, déplacer ton corps, etc. Parce que t'as moins de... c'est de la mécanique, en fait. Hein, ça va moins taper, etc. Peut-être tu feras moins de bruit aussi. Moi, je trouve que c'est un bon indicateur d'écouter si on fait beaucoup de bruit quand le pied se pose. Et donc, tu vas aussi économiser tes chaussures. J'avais dit que j'avais quand même deux autres astuces qui peuvent être intéressantes à garder en tête. Un premier, en fait, c'est que certains trous pourraient venir d'une taille un peu courte sur les chaussures, c'est-à-dire que c'est, et j'allais dire, c'est un peu comme l'histoire des ongles noirs, en fait, hein. C'est-à-dire que si le pied vient taper constamment au bout de la chaussure, et à un moment donné, le pied, il va falloir qu'il trouve une position, et peut-être que l'orteil peut remonter, parce que si la chaussure est un peu courte, bon, là, ça va s'accompagner d'ongles noirs, etc., et ça va frotter par le haut. Donc là, ça veut dire que peut-être une demi-taille en plus ou une taille en plus des chaussures, ça peut être intéressant, c'est à vérifier, mais ça peut faire partie des cas. Et puis, d'après des podologues aussi, j'avais vu un truc, c'est que ça peut être aussi sur peut-être alors la taille du pied, la forme du pied, forme des chaussures, l'épaisseur des chaussures, je ne sais pas quoi. Mais en fait, un espace entre le mèche et la semelle qui est un peu fin par rapport à nos pieds tels qu'ils sont faits, tels qu'ils seraient faits, peut-être aussi sur les épaisseurs des ongles, etc. Rappelez-vous, on avait parlé dans l'épisode avec la podologue. Peut-être que l'un dans l'autre, etc., il peut y avoir ces causes-là. Et dans ce cas-là, en fait, c'est peut-être là où un podologue pourrait dire, on pourrait, parce que je l'ai vu le faire, hein, où ils font des semelles qui sont un poil plus fines, en fait, pour libérer un petit peu d'espace sous l'orteil, justement pour qu'il y ait un peu plus d'espace et que ça vienne moins taper dans le mèche et que ça rende les choses plus confortables. Voilà, je le dis aussi, hein, soyons honnêtes, parce que moi, j'ai partagé là ma vision de comment moi je vois les choses et comment moi je les ai vécues. Vraiment, hein, cette histoire de... j'étais un coureur qui une technique de marcheur. J'ai vu l'impact que ça a eu, un impact négatif en fait, sur mon fonctionnement de mon corps, sur mes performances aussi d'une manière, hein, parce que le jour où j'ai pu arriver, où j'ai changé de foulée, je me suis rendu compte aussi que je fatiguais moins, que je courais plus facilement, que j'ai pu allonger les distances aussi plus facilement, etc. Et puis forcément, ça a allégé le budget en chaussures, parce que quand de trouver des chaussures... Alors l'été, on s'en moque un peu qu'elles soient trouées. Bon, c'est dommage, ça fait toujours râler de trouver des chaussures. On se dit, bon, si l'été sont trouées à 200 ou 300 km, il pleut pas, ça va aller. Mais l'hiver, c'est vrai que c'est vraiment très gênant. Donc, on est quand même bien content quand on arrive à résoudre ce problème-là. Et moi, en fait, c'est ma vision des choses. Alors, c'est vraiment, je le répète, ma vision des choses. Ça vaut le coup ça vaut le coup d'essayer ça, hein, je dis très clairement, de faire une petite vidéo, d'avoir ce petit bout d'analyse, etc., de voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez remarqué que j'ai pas dit de courir en pieds nus ou en sandales pour éviter ce problème-là, mais d'un autre côté, ça serait le deuxième effet, c'est-à-dire que si vous commencez à courir en pieds nus ou en sandales, vous allez être obligé en fait d'adopter une foulée qui soit beaucoup plus protectrice, hein, en fait, et moins talonnante. Et donc, si vous la gardez aussi quand vous mettez des chaussures, bah, normalement, vous ne devriez plus avoir ce problème-là. En tout cas, ce problème-là ne devrait pas venir de ce souci-là d'avoir les orteils qui remontent, parce que votre foulée sera plus je vais pas dire naturel en fait. Hein. Vous avez une foulée telle qu'elle est comme ça, mais une foulée en fait moins marcheuse. Voilà, moi je dirais moins marcheuse et avec moins les orteils pointés vers le soleil et vers le ciel. Voilà. C'était mon conseil, ma vision des choses. Hein. Si vous avez besoin aussi de, si vous avez un avis d'ailleurs, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message @BertrandSoulier sur Instagram. Ou venir dans le Hamsters Running Club, ou mettre aussi un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Et puis, si vous voulez des conseils complémentaires et personnalisés, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.